Stendhal, souvenir d'égotisme. Chapitre 1er, Rome, 20 juin 1832. Pour employer mes loisirs dans cette terre étrangère, j'ai envie d'écrire un petit mémoire de ce qui m'est arrivé pendant mon dernier voyage à Paris, du 21 juin 1821 au novembre 1830. C'est un espace de 9 ans et demi. Je me gronde moi-même depuis 2 mois, depuis que j'ai digéré la nouveauté de ma position, pour entreprendre un travail quelconque. Sans travail, le vaisseau de la vie humaine n'a point de lest. J'avoue que le courage d'écrire me manquerait si je n'avais pas l'idée qu'un jour ces feuilles paraîtront imprimées et seront lues par quelque âme que j'aime, par un être tel que Madame Roland ou Monsieur Gros, le géomètre. Mais les yeux qui liront ceci s'ouvrent à peine à la lumière. Je suppute que mes futurs lecteurs ont 10 ou 12 ans. Ai-je tiré tout le parti possible pour mon bonheur des positions où le hasard m'a placé pendant les 9 ans que je viens de passer à Paris? Quel homme suis-je? Ai-je du bon sens? Ai-je du bon sens avec profondeur? Ai-je un esprit remarquable? En vérité, je n'en sais rien. Ému par ce qui m'arrive au jour le jour, je pense rarement à ces questions fondamentales. Et alors, mes jugements varient comme mon humeur. Mes jugements ne sont que des aperçus. Voyons si, en faisant mon examen de conscience la plume à la main, j'arriverai à quelque chose de positif et qui reste longtemps vrai pour moi. Que penserais-je de ce que je me sens disposé à écrire en le relisant vers 1835, si je vis? Sera-ce comme pour mes ouvrages imprimés? J'ai un profond sentiment de tristesse quand, faute d'autres livres, je les relis. Je sens, depuis un mois que j'y pense, une répugnance réelle à écrire uniquement pour parler de moi, du nombre de mes chemises, de mes accidents d'amour-propre. D'un autre côté, je me trouve loin de la France. J'ai lu tous les livres amusants qui ont pénétré en ce pays. Toute la disposition de mon cœur était d'écrire un livre d'imagination sur une intrigue d'amour arrivée à Dresde, en août 1813, dans une maison voisine de la mienne, mais les petits devoirs de ma place m'interrompent assez souvent. Ou, pour mieux dire, je ne puis jamais, en prenant mon papier, être sûr de passer 1 heure sans être interrompu. Cette petite contrariété est un net d'imagination chez moi. Quand je reprends ma fiction, je suis dégoûté de ce que je pensais. À quoi un homme sage répondra qu'il faut se vaincre soi-même? Je répliquerai, il est trop tard, j'ai 49 ans. Après tant d'aventures, il est temps de songer à achever la vie le moins mal possible. Ma principale objection n'était pas la vanité qu'il y a à écrire sa vie. Un livre sur un tel sujet est comme tous les autres, on l'oublie bien vite s'il est ennuyeux. Je craignais de déflorer les moments heureux que j'ai rencontrés en les décrivant, en les anatomisant. Or, c'est ce que je ne ferai point. Je sauterai le bonheur. Le génie poétique est mort. Mais le génie du soupçon est venu au monde. Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels « je » que l'auteur va écrire, c'est une parfaite sincérité. Aurais-je le courage de raconter les choses humiliantes sans les sauver par des préfaces infinies? Je l'espère. Malgré les malheurs de mon ambition, je ne crois point les hommes méchants. Je ne me crois point persécuté par eux. Je les regarde comme des machines poussées, en France, par la vanité, et ailleurs, par toutes les passions, la vanité y comprise. Je ne me connais point moi-même, et c'est ce qui, quelquefois, la nuit quand j'y pense, me désole. Suis-je bon, méchant, spirituel, bête? Ai-je su tirer un bon parti des hasards au milieu desquels m'a jeté et la toute-puissance de Napoléon, que toujours j'adorais, en 1810, et la chute que nous fîmes dans la boue en 1814, et notre effort pour en sortir en 1830? Je crains bien que non. J'ai agi par humeur, au hasard. Si quelqu'un m'avait demandé conseil sur ma propre position, j'en aurais souvent donné une d'une grande portée. Des amis rivaux d'esprit m'ont fait compliment là-dessus. En 1814, monsieur le comte Beugnot, ministre de la police, m'offrit la direction de l'approvisionnement de Paris. Je ne sollicitais rien. J'étais en admirable position pour accepter. Je répondis de façon à ne pas encourager monsieur Beugnot, homme qui a de la vanité comme deux Français. Il dut être fort choqué. L'homme qui eut cette place s'en est retiré au bout de 4 ou 5 ans, las de gagner de l'argent et, dit-on, s'envoler. L'extrême mépris que j'avais pour les Bourbons, c'était pour moi alors une boue fétide, me fit quitter Paris peu de jours après n'avoir pas accepté l'obligeante proposition de M. Beugnot. Le cœur navré par le triomphe de tout ce que je méprisais et ne pouvais haïr, n'était rafraîchi que par un peu d'amour que je commençais à éprouver pour Madame la Comtesse du Long, que je voyais tous les jours chez M. Beugnot, et qui, 10 ans plus tard, a eu une grande part dans ma vie. Alors, elle me distinguait, non pas comme aimable, mais comme singulier. Elle me voyait l'ami d'une femme fort laide et d'un grand caractère, Madame la Comtesse Beugnot. Je me suis toujours repenti de ne pas l'avoir aimée. Quel plaisir de parler avec intimité à un être de cette portée. Cette préface est bien longue, je le sens depuis 3 pages. Mais je dois commencer par un sujet si triste et si difficile que la paresse me saisit déjà. J'ai presque envie de jeter la plume. Mais, au premier moment de solitude, j'aurai des remords. Je quittai Milan pour Paris le juin 1821, avec une somme de 3 500 francs, je crois, regardant comme unique bonheur de me brûler la cervelle quand cette somme serait finie. Je quittais, après 3 ans d'intimité, une femme que j'adorais, qui m'aimait et qui ne s'est jamais donnée à moi. J'en suis encore, après tant d'années d'intervalle, à deviner les motifs de sa conduite. Elle était hautement déshonorée, elle n'avait cependant jamais eu qu'un amant. Mais les femmes de la bonne compagnie de Milan se vengeaient de sa supériorité. La pauvre Mathilde ne sut jamais ni manœuvrer contre cet ennemi, ni le mépriser. Peut-être un jour, quand je serai bien vieux, bien glacé, aurai-je le courage de parler des années 1818, 1819, 1820, 1821. En 1821, j'avais beaucoup de peine à résister à la tentation de me brûler la cervelle. Je dessinais un pistolet à la marge d'un mauvais drame d'amour que je barbouillais alors. Logé, casa à Serbie. Il me semble que ce fut la curiosité politique qui m'empêcha d'en finir. Peut-être, sans que je m'en doute, fût-ce aussi la peur de me faire mal. Enfin, je pris congé de Mathilde. « Quand reviendrez-vous ? » me dit-elle. « Jamais, j'espère. » Il y eut là une dernière heure de tergiversations et de vaines paroles. Une seule eût pu changer ma vie future, hélas, pas pour bien longtemps. Cette âme angélique, cachée dans un si beau corps, a quitté la vie en 1825. Enfin, Je partis dans l'état qu'on peut s'imaginer le 1 juin. J'allais de Milan à Côme, craignant à chaque instant et croyant même que je rebrousserais chemin. Cette ville où je croyais ne pouvoir demeurer sans mourir, je ne pus la quitter sans me sentir arracher l'âme. Il me semblait que j'y laissais la vie. Que dis-je? Qu'était-ce que la vie auprès d'elle? De Mathilde? J'expirais à chaque pas que je faisais pour m'en éloigner. Je ne respirais qu'en soupirant. Shelley. Bientôt, je fus comme stupide, faisant la conversation avec les postillons et répondant sérieusement aux réflexions de ces gens-là sur les prix du vin. Je pesais avec eux les raisons qui devaient le faire augmenter d'un sou. Ce qu'il y avait de plus affreux était de regarder dans moi-même. Je passais à Airolo, à Bellinzona, à Lugano. Le son de ces noms me fait frémir même encore aujourd'hui, 20 juin 1832. J'arrivais au Saint-Gothard, alors abominable, exactement comme les montagnes du Cumberland dans le nord de l'Angleterre, en y ajoutant des précipices. Je voulus passer le Saint-Gothard à cheval, espérant un peu que je ferais une chute qui m'écorcherait à fond et que cela me distrairait. Quoique ancien officier de cavalerie, et quoique j'aie passé ma vie à tomber de cheval, j'ai horreur des chutes sur des pierres roulantes et cédant sous les pas du cheval. Le courrier avec lequel j'étais finit par m'arrêter et par me dire que peu lui importait de ma vie, mais que je diminuerais son profit et que personne ne voudrait plus venir avec lui quand on saurait qu'un de ses voyageurs avait roulé dans le précipice. « Eh quoi, n'avez-vous pas deviné que j'ai la V ?» lui dis-je. « Je ne puis pas marcher. » J'arrivai avec ce courrier, maudissant son sort, jusqu'à Altorf. J'ouvrais des yeux stupides sur tout. Je suis un grand admirateur de Guillaume Tell, quoique les écrivains ministériels de tous les pays prétendent qu'il n'a jamais existé. À Altorf, je crois, une mauvaise statue de Tell, avec un jupon de pierre, me toucha précisément parce qu'elle était mauvaise. « Voilà donc, me disais-je avec une douce mélancolie, succédant pour la première fois à un désespoir sec, voilà donc ce que deviennent les plus belles choses aux yeux des hommes grossiers. Tell tu es, met-il, au milieu du salon de Madame Traversy. » La vue de cette statue m'adoucit un peu. Je m'informai du lieu où était la chapelle de Tell. « Vous la verrez demain. » Le lendemain, je m'embarquai en bien mauvaise compagnie. Des officiers suisses faisant partie de la garde de Louis XVIII qui se rendaient à Paris. Ici, 4 pages de description de Altorf à Gersau, Lucerne, Bâle, Belfort, Langres, Paris. Occupé du moral, la description du physique m'ennuie. Il y a 2 ans que je n'ai écrit 12 pages comme ceci. La France, et surtout les environs de Paris, m'ont toujours déplu. Ce qui prouve que je suis un mauvais Français et un méchant, disait plus tard Mademoiselle Sophie, belle-fille de M. Cuvier. Mon cœur se serra tout à fait en allant de Bâle à Belfort, et quittant les hautes, si ce n'est belles montagnes suisses, pour l'affreuse et plate misère de la Champagne. Que les femmes sont laides à... village où je les vis en bas bleus et avec des sabots. Mais plus tard je me dis, quelle politesse, quelle affabilité, quel sentiment de justice dans leur conversation villageoise. Langres était située comme Volterra, ville qu'alors j'adorais. Elle avait été le théâtre d'un de mes exploits les plus hardis dans ma guerre contre Mathilde. Je pensais à Diderot, fils, comme on sait, d'un coutelier de Langres. Je songeais à Jacques le Fataliste, le seul de ses ouvrages que j'estime. Mais je l'estime beaucoup plus que le voyage d'Anacharsis, le traité des études, et 100 bouquins estimés des pédants. « Le pire des malheurs serait, m'écriai-je, que ces hommes si secs, mes amis, au milieu desquels je vais vivre, devinassent ma passion, et pour une femme que je n'ai pas eue. Je me dis cela en juin 1821, et je vois en juin 1832, pour la première fois en écrivant ceci, que cette peur, mille fois répétée, a été dans le fait le principe dirigeant de ma vie pendant 10 ans. C'est par là que je suis venu à avoir de l'esprit, chose qui était le bloc, la butte de mes mépris à Milan en 1818, quand j'aimais Mathilde. J'entrais dans Paris, que je trouvais pire que laid, insultant pour ma douleur, avec une seule idée, n'être pas deviné. Au bout de 8 jours, en voyant l'absence politique, je me dis profiter de ma douleur pour... Je vécus là-dessus plusieurs mois, dont je ne me souviens guère. J'accablai de lettres mes amis de Milan, pour en obtenir indirectement un demi-mot sur Mathilde. Eux, qui désapprouvaient ma sottise, jamais n'en parlaient. Je me logeai à Paris, rue de Richelieu, dans un hôtel de Bruxelles, numéro 47, tenu par un monsieur Petit, ancien valet de chambre d'un des messieurs de Damas. La politesse, la grâce, l'à-propos de ce monsieur Petit, son absence de tout sentiment, son horreur pour tout mouvement de l'âme qui avait de la profondeur, son souvenir vif pour des jouissances de vanité qui avaient 30 ans de date, son honneur parfait en matière d'argent, en faisait à mes yeux le modèle parfait de l'ancien Français. Je lui confiai bien vite les 3 000 francs qui me restaient. Il m'en remit, malgré moi, un bout de reçu que je me hâtais de perdre, ce qui le contraria beaucoup lorsque, quelques mois après ou quelques semaines, je repris mon argent pour aller en Angleterre, où me poussa le mortel dégoût que j'éprouvais à Paris. J'ai bien peu de souvenirs de ces temps passionnés. Les objets glissaient sur moi, inaperçus ou méprisés, quand ils étaient entrevus. Ma pensée était sur la place Belgiozoso à Milan. Je vais me recueillir pour tâcher de me rappeler les maisons où j'allais. Chapitre 2. Voici le portrait d'un homme de mérite avec qui j'ai passé toutes mes matinées pendant 8 ans. Il y avait estime, mais non amitié. J'étais descendu à l'hôtel de Bruxelles, parce que là logeait le piémontais le plus sec, le plus dur, le plus ressemblant à la rancune du roman comique que j'ai jamais rencontré. Monsieur le baron de Lucinge a été le compagnon de ma vie de 1821 à 1831. Né vers 1785, il avait 36 ans en 1821. Il ne commença à se détacher de moi et à être impoli dans le discours que lorsque la réputation d'esprit me vint après l'affreux malheur du 15 septembre 1826. Monsieur de Lucinge, petit, râblé, trapu, n'y voyant pas à 3 pas, toujours mal mis par avarice et employant nos promenades à faire des budgets de dépenses personnelles, pour un garçon vivant seul à Paris, avait une rare sagacité. Dans mes illusions romanesques et brillantes, je voyais comme 30, tandis que ce n'était que 15, le génie, la bonté, la gloire, le bonheur de tel homme qui passait. Lui ne les voyait que comme 6 ou 7. Voilà ce qui a fait le fond de nos conversations pendant 8 ans. Nous nous cherchions d'un bout de Paris à l'autre. Lucinge, âgé alors de 36 ou 37 ans, avait le cœur et la tête d'un homme de 55 ans. Il n'était profondément ému que des événements à lui personnels. Alors il devenait fou, comme au moment de son mariage. À cela près, le but constant de son ironie, c'était l'émotion. Lucinge n'avait qu'une religion, l'estime pour la haute naissance. Il est, en effet, d'une famille du Bugey qui y tenait un rang élevé en 1500. Elle a suivi à Turin les ducs de Savoie, devenus rois de Sardaigne. Lucinge avait été élevé à Turin, à la même académie qu'Alfieri. Il y avait pris cette profonde méchanceté piémontaise, au monde sans pareil, qui n'est cependant que la méfiance du sort et des hommes. J'en retrouve plusieurs traits à Émor, mais par-dessus le marché, ici, il y a des passions, et le théâtre étant plus vaste, moins de petitesse bourgeoise. 21 juin. Je n'en ai pas moins aimé Lucinge, jusqu'à ce qu'il soit devenu riche, ensuite avare, peureux, et enfin désagréable dans ses propos, et presque malhonnête en janvier 1830. Il avait une mère avare, mais surtout folle, et qui pouvait donner tout son bien au prêtre. Il songea à se marier. Ce serait une occasion pour sa mère de se lier par des actes qui l'empêcheraient de donner son bien à son confesseur. Les intrigues, démarches, pendant qu'il allait à la chasse d'une femme, nous amusèrent beaucoup. Lucinge fut sur le point de demander une fille charmante qui eût donné à lui le bonheur et l'éternité à notre amitié. Je veux parler de la fille du général Gilly, depuis Madame Douin, femme d'un avoué, je crois. Mais le général avait été condamné à mort après 1815. Cela eût effarouché la noble baronne, mère de Lucinge. Par un grand hasard, il évita d'épouser une coquette, depuis Madame Varambon. Enfin, il épousa une sotte parfaite, grande et assez belle, et si elle eût eu un nez. Cette sotte se confessait directement à Monsieur de Quélan, archevêque de Paris, dans le salon duquel elle allait se confesser. Le hasard m'avait donné quelques données sur les amours de cet archevêque, qui, peut-être, avait alors Madame de Podenas, dame d'honneur de Madame la Duchesse de Berry, et, depuis ou avant, maîtresse du fameux duc de Raguse. Un jour, indiscrètement pour moi, c'est là, si je ne me trompe, un de mes nombreux défauts, je plaisantais un peu Madame de Lucinge sur l'archevêque. C'était chez Madame la Comtesse d'Avel. « Ma cousine, imposez silence à Monsieur Bell !» s'écria-t-elle furieuse. Depuis ce moment, elle a été mon ennemie, quoique avec des retours de coquetterie bien étranges. Mais me voilà embarquée dans un épisode bien long. Je continue, car j'ai vu Lucinge deux fois par jour pendant 8 ans. Et plus tard, il faudrait revenir à cette grande et florissante baronne qui a près de 5 pieds 6 pouces. Avec sa dot, ses appointements de chef de bureau au ministère de la police, les donations de sa mère, Lucinge réunit 22 ou 23 000 livres de rente vers 1828. De ce moment, un seul sentiment le domina, la peur de perdre. Méprisant les Bourbons, non pas autant que moi qui ai de la vertu politique, mais les méprisant comme maladroits. Il arriva à ne pouvoir plus supporter, sans un vif accès d'humeur, l'énoncé de leur maladresse. Il voyait vivement et à l'improviste un danger pour ses propriétés. Chaque jour, il y en avait quelques nouvelles, comme on peut le voir dans les journaux de 1826 à 1830. Lucinge allait au spectacle le soir et jamais dans le monde. Il était un peu humilié de sa place. Tous les matins, nous nous réunissions au café. Je lui racontais ce que j'avais appris la veille. Ordinairement, nous plaisantions sur nos différences de parti. Le 3 janvier 1830, je crois, il me nia je ne sais quel fait anti-bourbonien que j'avais appris chez M. Cuvier, alors conseiller d'État, fort ministériel. Cette sottise fut suivie d'un fort long silence. Nous traversâmes le Louvre sans parler. Je n'avais alors que le strict nécessaire. Lui, comme on sait, 22 000 francs. Je croyais m'apercevoir, depuis un an, qu'il voulait prendre à mon égard un ton de supériorité. Dans nos discussions politiques, il me disait « Vous, vous n'avez pas de fortune ». Enfin, je me déterminai au très pénible sacrifice de changer de café sans le lui dire. Il y avait 9 ans que j'allais tous les jours, à 10h30, au café de Rouen, tenu par M. Pic, bon bourgeois, et Mme Pic, alors jolie, dont Maisonnette, un de nos amis communs, obtenait, je crois, des rendez-vous à 500 francs l'un. Je me retirai au café Lamblin, le fameux café libéral, également situé au Palais-Royal. Je ne voyais plus Lucinge que tous les 15 jours. Depuis, notre intimité, devenue un besoin pour tous les deux, je crois, a voulu souvent se renouer, mais jamais elle n'en a eu la force. Plusieurs fois après, la musique ou la peinture, où il était instruit, étaient pour nous des terrains neutres, mais toute l'impolitesse de ses façons revenait avec âpreté dès que nous parlions politique, et qu'il avait peur pour ses 22 000 francs. Il n'y avait pas moyen de continuer. Son bon sens m'empêchait de m'égarer trop loin dans mes illusions politiques. Ma gaieté, car je devins gai, ou plutôt jacquillard de le paraître, le distrayait de son humeur sombre et méchante et de la terrible peur de perdre. Quand je suis rentré dans une petite place en 1830, je crois qu'il a trouvé les appointements trop considérables. Mais enfin, de 1821 à 1828, j'ai vu Lucinge 2 fois par jour, et, à l'exception de l'amour et des projets littéraires auxquels il ne comprenait rien, nous avons longuement bavardé sur chacune de mes actions, aux Tuileries et sur le quai du Louvre qui conduisait à son bureau. De 11 heures à midi, nous étions ensemble, et très souvent, il parvenait à me distraire complètement de mes chagrins qu'il ignorait. Voilà enfin ce long épisode fini. Mais il s'agissait du premier personnage de ces mémoires, de celui à qui, plus tard, j'inoculais d'une manière si plaisante mon amour frénétique pour Madame Azur, dont il est depuis 2 ans l'amant fidèle, et, ce qui est plus comique, il l'a rendue fidèle. C'est une des Françaises les moins poupées que j'ai rencontrées. Mais n'anticipons point. Rien n'est plus difficile dans cette grave histoire que de garder respect à l'ordre chronologique. Nous en sommes donc au mois d'août 1821. Moi, logeant avec Lucinge à l'hôtel de Bruxelles, le suivant à 5 heures à la table d'hôte excellente et bien tenue par le plus poli des Français, M. Petit, et par sa femme, femme de chambre à grande façon, mais toujours piquée. Là, Lucinge, qui a toujours craint, je le vois en 1832, de me présenter à ses amis, ne put pas s'empêcher de me faire connaître. Un aimable et excellent garçon, beau et sans nul esprit, M. Barrault, banquier de Lunéville, alors occupé à gagner une fortune de 80 000 francs de rente. 2. Un officier à la demi-solde, décoré à Waterloo, absolument privé d'esprit, encore plus d'imagination, s'il est possible, sot, mais d'un ton parfait, et ayant eu tant de femmes qu'il était devenu sincère sur leur compte. La conversation de M. Poitevin, le spectacle de son bon sens absolument pur de toute exagération causée par l'imagination, ses idées sur les femmes, ses conseils sur la toilette, m'ont été fort utiles. Je crois que ce pauvre Poitevin avait 1 200 francs de rente et une place de 1 500 francs. Avec cela, c'était l'un des jeunes gens les mieux mis à Paris. Il est vrai qu'il ne sortait jamais sans une préparation de 2 heures et demie. Enfin, il avait eu pendant 2 mois, je crois, comme passade, la marquise des Reines, à laquelle plus tard j'ai eu tant d'obligations, que je me suis promis 10 fois d'avoir, ce que je n'ai jamais tenté. En quoi j'ai eu tort. Elle me pardonnait ma laideur, et je lui devais bien d'être son amant. Je verrai à acquitter cette dette à mon premier voyage à Paris. Elle sera peut-être d'autant plus sensible à mon attention que la jeunesse nous a quittés tous deux. Au reste, je me vante peut-être. elle est fort sage depuis 10 ans, mais par force, selon moi. Enfin, abandonnée par Madame Dard, sur laquelle je devais tant compter, je dois la plus vive reconnaissance à la marquise. Ce n'est qu'en réfléchissant, pour être en état d'écrire ceci, que se débrouille à mes yeux ce qui se passait dans mon cœur en 1821. J'ai toujours vécu, et je vis encore, au jour le jour, et sans songer nullement à ce que je ferai demain. Le progrès du temps n'est marqué pour moi que par les dimanches, où ordinairement je m'ennuie et je prends tout mal. Je n'ai jamais pu deviner pourquoi. En 1821, à Paris, les dimanches étaient réellement horribles pour moi. Perdu sous les grands marronniers des Tuileries, si majestueux à cette époque de l'année, je pensais à Mathilde, qui passait plus particulièrement ces journées-là chez l'opulente Mad. Traversy. Cette funeste amie qui me haïssait, jalousait sa cousine, et lui avait persuadé, par elle et par ses amis, qu'elle se déshonorerait parfaitement si elle me prenait pour amant. Plongée dans une sombre rêverie, tout le temps que je n'étais pas avec mes 3 amis, Lucinge, Barreau et Poitevin, je n'acceptais leur société que par distraction. Le plaisir d'être distrait un instant de ma douleur, ou la répugnance à en être distrait, dictait toutes mes démarches. Quand l'un de ces messieurs me soupçonnait d'être triste, je parlais beaucoup, et il m'arrivait de dire les plus grandes sottises. Et de ces choses, qu'il ne faut surtout jamais dire en France, parce qu'elles piquent la vanité de l'interlocuteur. Monsieur Poitevin me faisait porter la peine de ces mots-là au centuple. J'ai toujours parlé infiniment trop au hasard et sans prudence. Alors, ne parlant que pour soulager un instant une douleur poignante, songeant surtout à éviter le reproche d'avoir laissé une affection à 1000 ans et d'être triste pour cela, ce qui aurait amené sur ma maîtresse prétendue des plaisanteries que je n'aurais pas supportées, je devais réellement, à ces 3 êtres parfaitement purs d'imagination, paraître fou. J'ai su, quelques années plus tard, qu'on m'avait cru seulement extrêmement affecté. Je vois, en écrivant ceci, que si le hasard ou un peu de prudence m'avait fait chercher la société des femmes, malgré mon âge, ma laideur, etc., j'y aurais trouvé des succès et peut-être des consolations. Je n'ai eu une maîtresse que par hasard, en 1824, 3 ans après. Alors seulement, le souvenir de Mathilde ne fut plus déchirant. Elle devint pour moi comme un fantôme tendre, profondément triste, et qui, par son apparition, me disposait souverainement aux idées tendres, bonnes, justes, indulgentes. Ce fut pour moi une rude corvée en 1821 que de retourner pour la première fois dans les maisons où l'on avait eu des bontés pour moi quand j'étais à la cour de Napoléon. Je différais, je renvoyais sans cesse. Enfin, comme il m'avait bien fallu serrer la main des amis que je rencontrais dans la rue, on sut ma présence à Paris. On se plaignit de la négligence. Le comte d'Argout, mon camarade quand nous étions auditeurs au Conseil d'État, très brave, travailleur impitoyable, mais sans nul esprit, était pair de France en 1821. Il me donna un billet pour la salle des pairs, où l'on instruisait le procès d'une quantité de pauvres sots imprudents et sans logique. On appelait, je crois, leur affaire la conspiration du 19 au 29 août. Ce fut bien par hasard que leur tête ne tomba pas. Là, je vis pour la première fois M. Odilon Barreau, petit homme à barbe bleue. Il défendait, comme avocat, un de ces pauvres niais qui se mêlent de conspirer, n'ayant que les 2/3 ou les 3/4 du courage qu'il faut pour cette action saugrenue. La logique de M. Odilon Barreau me frappa. Je me tenais d'ordinaire derrière le fauteuil du chancelier M. Dambray à 1 pas ou 2. Il me sembla qu'il conduisait tous ses débats avec assez d'honnêteté pour un noble. C'était le ton et les manières de M. Petit, le maître de l'hôtel de Bruxelles, ancien valet de chambre de messieurs de Damas, mais avec cette différence que M. Dambray avait les manières moins nobles. Le lendemain, je fis l'éloge de son honnêteté chez Madame la comtesse d'Auligny. Là se trouvait la maîtresse de M. Dambray, une grosse femme de 36 ans, très fraîche. Elle avait l'aisance et la tournure de Mademoiselle Contat dans ses dernières années. Ce fut une actrice inimitable. Je l'avais beaucoup suivie en 1803, je crois. J'eus tort de ne pas me lier avec cette maîtresse de M. Dambray. Ma folie avait été pour moi une distinction à ses yeux. Elle me crut d'ailleurs l'amant ou un des amants de Madame d'Auligny. Là, j'aurais trouvé le remède à mes maux, mais j'étais aveugle. Je rencontrai un jour, en sortant de la chambre des pairs, mon cousin, monsieur le baron Martial Daru. Il tenait à son titre. D'ailleurs, le meilleur homme du monde, mon bienfaiteur, le maître qui m'avait appris, à Milan en 1800 et à Brunswick en 1807, le peu que je sais dans l'art de me conduire avec les femmes. Il en a eu 22 en sa vie, et des plus jolies, toujours ce qu'il y avait de mieux dans le lieu où il se trouvait. J'ai brûlé les portraits, cheveux, lettres, etc. « Comment, vous êtes à Paris, et depuis quand ?»«
Depuis 3 jours. »« Venez demain, mon frère sera bien aise de vous voir. »
Quelle fut ma réponse à l'accueil le plus aimable, le plus amical ? Je ne suis allé voir ses excellents parents que 6 ou 8 ans plus tard. Et la vergogne de n'avoir pas paru chez mes bienfaiteurs a fait que je n'y suis pas allé 10 fois jusqu'à leur mort prématurée. Vers 1829, mourut l'aimable Martial Daru, devenu lourd et insignifiant à force de breuvages aphrodisiaques au sujet desquels j'ai eu 2 ou 3 scènes avec lui. Quelques mois après, je restai immobile dans mon café de Rouen, alors au coin de la rue du Rempart, en trouvant dans mon journal l'annonce de la mort de Monsieur le Comte d'Am. Je sautai dans un cabriolet, la larme à l'œil, et courus au numéro 81 de la rue de Grenelle. Je trouvai un laquais qui pleurait, et je pleurai à chaudes larmes. Je me trouvai bien ingrat. Je mis le comble à mon ingratitude en partant le soir même pour l'Italie, je crois. J'avançai mon départ. Je serais mort de douleur en entrant dans sa maison. Là aussi, il y avait eu un peu de la folie qui me rendait si baroque en 1821. Monsieur d'Auligny, fils, plaidait aussi pour un des malheureux nigauds qui avait voulu conspirer. De la place qu'il occupait comme avocat, il me vit. Il n'y eut pas moyen de ne pas aller voir sa mère. Elle avait un grand caractère. C'était une femme. Je ne sais pourquoi, je ne profitais pas de l'admirable obligeance de son accueil pour lui conter mes chagrins et lui demander conseil. Là encore, je fus bien près du bonheur, car la raison entendue de la bouche d'une femme eût eu un empire tout autre sur moi que celui que je me faisais. Je dînais souvent chez Madame d'Auligny. Au 2e ou 3e dîner, elle m'invita à déjeuner avec la maîtresse de M. Dambray, alors chancelier. Je réussis, et j'eus la sottise de ne pas me plonger dans cette société amie. Amant heureux où est conduit, j'y eusse trouvé un peu d'oubli que je cherchais partout. Et par exemple, dans de longues promenades solitaires à Montmartre et au bois de Boulogne. J'y étais si malheureux que depuis, j'ai pris ces lieux aimables en horreur. Mais j'étais aveugle alors. Ce ne fut qu'en 1824, lorsque le hasard me donna une maîtresse, que je vis le remède à mes chagrins. Ce que j'écris me semble bien ennuyeux. Si cela continue, ceci ne sera pas un livre, mais un examen de conscience. Je n'ai presque pas de souvenirs distincts de ces temps d'orage et de passion. La vue journalière de mes conspirateurs à la chambre des pairs me frappait profondément de cette idée. Tuer quelqu'un à qui on n'a jamais parlé n'est qu'un duel ordinaire. Comment aucun de ces niais-là n'a-t-il eu l'idée d'imiter Louve? Mes idées sont si vagues sur cette époque que je ne sais pas en vérité si c'est en 1821 ou en 1814 que j'ai rencontré la maîtresse de M. d'Ambray chez Mme d'Oligny. Il me semble qu'en 1821, je ne vis M. d'Oligny qu'à son château de Corbeil, et encore, je ne me déterminais à y aller qu'après deux ou trois invitations.